CDI Podcast.
Entrepreneur de légende.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur de légende. Je suis Mickaël Icard, journaliste pour CDI Média et je suis avec Sylvain Bersinger, auteur des livres Entrepreneur de légende. Bonjour Sylvain.
Bonjour Mickaël.
Alors Sylvain, encore aujourd'hui, un des points forts de l'industrie française, c'est l'aéronautique. Et bien sûr, parmi les noms d'entrepreneurs les plus célèbres de l'aviation, on pense évidemment à Marcel Dassault. Et vous allez voir, le parcours de cet ingénieur visionnaire ne laisse pas indifférent. On attache sa ceinture et on décolle vers ce nouvel épisode.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.
L'histoire de Marcel Dassault commence en 1892 à Paris.
En effet, Marcel Dassault, donc qui s'appelait à l'époque Marcel Bloch, on verra comment son nom va évoluer en Dassault, est né en 1892 à Paris, donc dans une famille juive bourgeoise. On verra que sa religion a eu un impact très important dans sa vie. Donc c'est une famille aisée, son père est médecin, sa mère femme au foyer. Donc c'est un enfant, on va dire, très doué pour les sciences, très bon à l'école, curieux, qui se passionne pour la technologie. Dès son plus jeune âge, dès l'enfance, il bricole dans sa chambre des petites inventions. Notamment, il invente autour de 15 ans une technique pour enregistrer la voix à partir de bandes magnétiques. Donc c'est un peu un précurseur, on va dire, du magnétophone, notamment. Et donc, il se passionne au début pour toutes les sciences, mais il y en a une technologie dont il va tomber amoureux, on peut le dire, c'est l'aviation. Donc, on est fin 19e, début 20e siècle, donc c'est les débuts de l'aviation, les pionniers, c'est Blériot qui traverse le premier la Manche, et lui est absolument fasciné par ça. Il veut absolument travailler dans ce domaine, faire des inventions dans ce domaine. Donc, vu que c'est un bon élève, donc il étudie au lycée Condorcet, après il va faire des grandes écoles dans l'aéronautique, dont il sort diplômé en 1913, juste avant la guerre.
Et juste avant la guerre, il fait son service militaire, et notamment il le fait dans l'aéronautique.
Oui, voilà, donc c'est un ingénieur aéronautique brillant, donc il travaille, quoi, l'armée le recrute pour travailler dans ce secteur-là, et notamment lorsqu'éclate la guerre, il va être affecté à un laboratoire d'ingénierie dans l'aviation. Donc, il est plus utile là que dans une tranchée. Donc la Première Guerre mondiale, l'aviation encore, on va dire, balbutiante, et lui va apporter des innovations, notamment avec un nouveau type d'hélice. Il invente une nouvelle forme d'hélice, qu'il appelle l'hélice éclair, et à partir de laquelle il va créer donc sa première société avec son collègue Henri Hypothèse. Et donc tous deux vont créer leur première société, donc qui au début, donc là on est en pleine Première Guerre mondiale, hein. Au début ils font uniquement des hélices pour les avions de l'armée.
Des hélices qui se retrouvent partout d'ailleurs, c'est
oui, ça
devient la norme.
Ça devient un petit peu le modèle standard de l'aviation française. Et ensuite ils vont, à la fin de la guerre, faire des avions, notamment des avions de reconnaissance, donc ils ne font plus que des hélices, ils commencent à faire l'avion en entier en fait.
C'est un peu une révélation pendant la guerre pour Marcel Bloch, du coup, de se sentir en plus utile et efficace dans ce domaine-là.
Oui, donc c'est vraiment un ingénieur très, très, très brillant. Donc, on l'a dit, l'aéronautique, c'est encore balbutiant, c'est encore un domaine où on se cherche, où il n'y a pas encore forcément de normes établies.
Il a vu que l'armée française n'avait pas du tout un bon dispositif en avion.
Voilà,
vous savez.
Donc il y avait des lacunes, peut-être un peu de retard sur l'Allemagne déjà à l'époque, et donc avec sa société il essaie de rattraper ce retard-là. Alors le problème, c'est qu'après la guerre, une fois que les Français ont gagné, bien il y a une sorte, on va dire, de désintérêt pour l'aviation. Donc
il était plus utile d'acheter des avions,
voilà,
militaires.
On s'était dit, on a battu l'Allemagne, pourquoi est-ce qu'on va continuer à faire des avions de guerre? Et donc en fait sa société, elle a plus de commandes, tout simplement, puisqu'elle faisait des avions pour l'armée. Et donc, après la guerre, dans les années 20, il y a une période un peu, on pourrait dire, de flottement, puisqu'il ne peut plus travailler dans son domaine de prédilection, puisqu'il n'y a plus de commandes.
Il est obligé de se reconvertir.
Voilà, il se reconvertit, donc il fait un peu de l'immobilier, il lance une usine de meubles avec son beau-père, donc il touche un petit peu à tout, mais c'est pas sa passion. Et d'ailleurs, il y touche avec succès, hein. Il gagne de l'argent, il développe ces entreprises-là, mais c'est pas... C'est pas un entrepreneur révolutionnaire du meuble, si on veut.
C'est pas ce qu'il a envie de faire,
voilà,
au fond de lui.
C'est pas sa passion, c'est un peu... il fait ça en attendant, disons.
Un coup du sort pour lui, c'est en 1928, la création du ministère de l'air.
Voilà, donc disons que le gouvernement français commence à se rendre compte que ben ils prennent du retard en matière d'aéronautique par rapport à l'Allemagne, aux États-Unis, enfin à tout le monde, et que visiblement la France s'est un peu endormie sur ses lauriers après la guerre. Et donc il y a la création d'un ministère de l'air en 1928 pour relancer la production d'aviation, notamment militaire. Et donc Marcel Dassault, quoi, Marcel Bloch, qui s'appelle encore Bloch à cette époque, se dit, bah, c'est le moment de se relancer dans l'aéronautique, puisque lui, c'est vraiment sa passion. Il faisait du meuble avant, en attendant mieux. Et donc, en 1931, il fonde sa société des avions Marcel Bloch. Et donc, il se met à faire tout un tas d'avions, donc des avions ambulances, des avions pour le courrier, des avions militaires aussi, mais pas que.
Et ça fonctionne.
Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Donc, il a ses usines à Courbevoie avec plusieurs centaines d'ouvriers. Il a visiblement de très bonnes idées et il devient rapidement le deuxième constructeur d'avions français. Donc, ça devient un industriel important et en vue dans l'industrie, notamment militaire.
Mais avec l'avènement du Front populaire, bah, sa société, elle est nationalisée.
Oui, donc en 1936, c'est le Front populaire qui nationalise des pans entiers de l'économie, dont sa société. Donc on lui demande évidemment pas son avis, il n'est pas très content, mais enfin c'est comme ça. Donc elle est, sa société est, on va dire, fusionnée ou imbriquée dans ce qu'on appelait la Société nationale des constructeurs aéronautiques du Sud-Ouest. Donc le Sud-Ouest, hein, c'est pour être le plus loin possible des canons allemands. Hein, c'est un peu pour ça que l'aéronautique est surtout à Toulouse et dans le Sud-Ouest. Hein, c'est pas un hasard, en fait.
C'était... Ah oui, c'est vrai. En fait, ils sont loin de la ligne de front.
Voilà, c'est pour être le plus loin possible des Allemands, pour éviter de se faire canarder ces usines, puisqu'à l'époque, l'ennemi ultime, c'était l'Allemagne. Donc ils ont mis les usines le plus loin possible de l'Allemagne. Donc il continue à travailler et à diriger son entreprise, mais il n'est plus propriétaire. Hein, elle a été nationalisée.
Il partage un peu avec d'autres...
Voilà, donc il y a un peu des guéguerres avec l'État, etc., puisqu'évidemment, il n'est pas content du tout de s'être fait nationaliser son entreprise. Mais en tout cas, il y a du travail, il y a des commandes, puisque on est à la fin des années 30. Hein, l'Allemagne s'est clairement réarmée depuis qu'Hitler est arrivé au pouvoir. On commence à entendre un peu des bruits de bottes en Europe. Et donc, il y a la volonté d'améliorer l'aviation française. Donc, sa société nationalisée a beaucoup de travail. Lui travaille à fabriquer de nouveaux avions. Peut-être un peu trop vite. D'ailleurs, il y a certains de ces avions qui ont des malfaçons, donc on a voulu fabriquer beaucoup d'avions rapidement, peut-être trop, et ces quelques malfaçons qui sont dans ces avions alimentent en fait la critique antisémite à son égard, puisqu'il est juif et il était déjà victime de nombreuses attaques antisémites, et vu qu'il y a quelques malfaçons dans ces avions, bah, évidemment l'extrême droite se déchaîne, dit qu'il fait exprès pour saboter, que c'est un agent infiltré des juifs, etc., enfin toutes ces théories farfelues, et donc déjà avant la guerre, il commence à être victime de ce genre d'attaque.
Mais oui, justement, c'est ce que tu disais, hein, le fait d'être juif, avec l'arrivée de ce second conflit mondial, il devient clairement une cible.
Oui, donc quand la France est vaincue et occupée, donc on sait tous les persécutions qui commencent à être instaurées à l'égard des Juifs. Donc lui, alors il fuit sur la côte pour se mettre donc en zone non occupée au début, hein, dans le sud. Donc il est une fois arrêté, un coup emprisonné, après relâché, et arrive un moment où les Allemands lui proposent de diriger une usine d'aéronautique, puisque les Allemands comprennent qu'ils ont affaire à un excellent ingénieur et homme d'affaires dans l'aéronautique, et donc ils lui proposent de partir en Allemagne, diriger une usine, ce qu'il refuse, hein, puisque lui étant juif, il est profondément anti-nazi, donc il ne veut pas travailler pour l'effort de guerre allemand. Et donc il est déporté au camp de Buchenwald, où il a failli mourir, il était extrêmement amaigri, bon, comme tous les déportés, hein, malade, etc. Et l'anecdote, c'est qu'il a été sauvé par des résistants communistes, donc il y avait un petit réseau de résistance communiste dans le camp, qui lui ont permis d'avoir un peu plus à manger, un peu de soins, etc., et donc à qui il a dû la vie sauve. Ce qui va donner entre Marcel Bloch, qui va devenir Dassault bientôt, on va en parler, et les communistes, des relations un petit peu ambiguës, puisque lui est un entrepreneur, un homme d'affaires d'opinion plutôt conservatrice, on va dire, mais qui a une dette morale envers les communistes. Et donc, par la suite, il va à de nombreuses reprises financer, aider des groupes communistes, parce qu'il a une dette morale. C'est à des communistes qu'il doit de ne pas être mort en déportation.
Oui, ça va être un peu controversé après, mais en fait, pour lui, c'était logique.
Voilà, pour lui, il y a une dette morale, puisqu'il sait très bien que sans la résistance communiste, il serait probablement mort en déportation.
Et donc, tu l'as dit, il survit à la guerre grâce à tout cela, et il va décider de changer de nom.
Oui, donc, en fait, il est on le comprend, traumatisé par cette expérience, et il ne veut plus jamais la revivre. Donc il veut couper les ponts avec son passé juif, donc il se convertit au catholicisme après la guerre, et il change son nom de Bloch en Dassault. Donc Bloch était un nom à consonance clairement juive, il prend le nom de Dassault, donc il vient de Charles Dassault, c'est-à-dire c'était un de ses proches qui était résistant, et dont le nom de code dans la résistance était char d'assaut, donc comme un char d'assaut, quoi. Et lui, il va reprendre juste la partie d'assaut, et donc ça, il deviendra Marcel Dassault après la guerre.
C'est quelque chose qu'on ne sait pas obligatoirement sur son nom.
Non, voilà, son nom a évolué, et c'est un clin d'œil à la résistance, en fait.
Et donc, du coup, après la guerre, il a changé son nom, et il continue de redoubler d'efforts, et il crée donc, du coup, une nouvelle société avec ce nouveau nom.
Voilà, donc à la fin des années 40, il crée la Générale Aéronautique Marcel Dassault. Et donc là, pendant on va dire, les 20 ans qui vont venir, il va progresser très rapidement dans les technologies. Donc c'est d'abord le premier avion de combat, c'est l'Ouragan, à la fin des années 40, qui est un peu le premier avion, quoi, qui est le premier avion à réaction français, qui va être un succès à l'exportation aussi. Après, il va fabriquer le Mystère, donc un autre avion, qui va être le premier avion français à franchir le mur du son. Quelques années après, les Américains, la première fois qu'un homme a franchi le mur du son, c'était en 1947. Lui, il arrive en 1953.
L'avait un peu piqué de ne pas y arriver en premier.
Oui, après, il faut dire qu'au sortir de la guerre, les Américains avaient une suprématie technologique et industrielle. Bon, c'était aussi difficile pour un Français d'aller aussi vite, mais en tout cas, il rattrape vite son retard. Après, il va fabriquer l'Étendard, donc un autre modèle d'avion de chasse. Il va faire le Mirage 3, qui va être le premier avion français à passer Mach 2, donc deux fois la vitesse du mur du son dans les années 50. Et ensuite, il va changer ce Mirage 3 en Mirage 4, il va en faire un plus gros pour pouvoir transporter la bombe atomique française, puisque De Gaulle a lancé un programme nucléaire français. Et donc, pour porter cette bombe atomique, il faut un nouveau type d'avion, donc ce sera le Mirage 4. Et en fait, en quelques années, en à peu près 20 ans, il a réussi à rattraper son retard qu'il avait sur les Américains ou les Russes, et donc il arrive à créer des avions de combat qui sont, on va dire, d'un niveau technologique comparable aux meilleurs au monde, aux Américains en gros.
Ces créations d'avions surpuissants pour l'armée, bah, ça va faire que rapidement il va devenir riche.
Oui, donc il devient un homme d'affaires, un entrepreneur riche et influent. Donc il élargit ses activités, notamment dans l'immobilier, dans le vin et aussi dans les médias, puisque notamment le groupe Dassault, aujourd'hui encore, détient le Figaro. Donc avec les critiques qui vont avec, puisque d'un côté, il détient des journaux. Quelle est la liberté de ces journalistes quand ils parlent notamment de son groupe et des questions aéronautiques, hein. C'est toujours un peu le problème quand des milliardaires ont des groupes de presse. Il y a un risque de conflit d'intérêts.
Mais il avait compris très vite l'importance de la presse et des médias pour faire avancer un peu ses affaires.
Oui, parce que lui vit principalement de commandes de l'État. Donc il faut qu'il soit influent vis-à-vis de l'État. Donc c'est aussi probablement une des raisons pour lesquelles il s'est lancé en politique. Il a été député, il a été sénateur. Et donc le fait d'être à la fois dans les rouages de la politique et d'avoir une voix médiatique, disons, c'est un moyen d'influencer sur les décisions du gouvernement et donc d'obtenir plus facilement des commandes.
Et donc c'est la construction un peu d'un personnage un peu compliqué qui a un pied dans l'aéronautique, mais aussi un pied dans les médias, un pied dans la politique qui se crée.
Voilà, donc c'est un personnage un peu controversé aussi, puisque on l'a dit, hein, il est à la fois en politique, en affaires, dans les médias. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans tout ça un peu un mélange des genres, des renvois d'ascenseurs, etc. Donc c'est pour ça que c'est un personnage controversé. D'ailleurs, après, avec son fils, quand il a été maire de Corbeil-Essonne, il y a eu tout un tas de scandales sur des achats de voix, etc. Donc il y a pas mal de controverses, et on va dire un côté un peu obscur chez Marcel Dassault et dans le groupe Dassault, on va dire, dans la famille Dassault. Mais en tout cas, c'est en matière d'entreprise, c'est un succès incontestable, puisqu'il développe de plus en plus ses avions et il va se diversifier au-delà du domaine militaire.
Oui, c'est ça qui est important, c'est qu'il voyait bien qu'il n'y avait pas que dans le militaire qui pouvait faire perdurer son entreprise.
Voilà, donc jusqu'à présent, il était pratiquement à 100% dépendant de commandes de l'armée, donc l'armée française ou des armées étrangères, hein, puisque déjà il exportait ses avions. Mais il va se lancer donc à la fois dans les jets privés, donc c'est aujourd'hui Dassault, les Falcon, c'est un des fleurons de l'aéronautique français aussi, et il va essayer de faire, alors ce qui va moins bien marcher, des avions de ligne. Donc à la fin des années 60, début des années 70, il va essayer de se lancer, mais ça va pas marcher, notamment parce que le choc pétrolier va arriver juste après, donc le prix du pétrole s'envole, donc l'aviation est moins porteuse. Et troisième diversification qui, elle, a marché, c'est dans les logiciels. puisqu'il avait besoin de logiciels pour concevoir ses avions. Et au lieu d'acheter des logiciels tout faits à des boîtes d'informatique, il s'est mis à développer ses propres logiciels. Et ça a donné Dassault Systèmes, qui est une filiale du groupe Dassault, et qui est le deuxième plus gros créateur de logiciels européens, derrière l'allemand SAP, donc qui est aussi une très grosse société.
Et en 1986, Marcel Dassault décède.
Oui, donc il est décédé en 1986. Il venait de lancer le projet du Rafale, donc le célèbre avion de combat dont on parle encore beaucoup aujourd'hui. Et donc c'est son fils Serge qui va prendre le relais, donc qui l'épaulait déjà au sein de l'entreprise. Et donc Serge Dassault qui a pris la succession de son père jusqu'à sa mort en 2018. Et depuis cette date, l'entreprise n'est plus dirigée par des membres historiques de la famille, donc c'est des dirigeants externes. Mais Dassault reste un des fleurons de l'aéronautique français, bien sûr.
Et Marcel Dassault reste évidemment associé à son entreprise et même dans la culture populaire.
Oui, c'est un personnage emblématique. Et Hergé a fait un clin d'œil à Marcel Dassault, puisque dans l'épisode Vol, je crois que c'est Vol 714 pour Sydney, le titre, il y a le célèbre, il y a un personnage qui s'appelle Laszlo Karedas, qui est un célèbre entrepreneur, notamment dans l'aéronautique, et il y a plein de clins d'œil qui renvoient, qui nous permettent de faire des ponts entre Laszlo Karedas et Marcel Dassault. Donc il y a déjà leur physique, ils ont une physique assez semblable, c'est tous les deux des entrepreneurs de l'aéronautique, et ils ont le symbole, donc le symbole de Laszlo Karedas dans Tintin, c'est un Karedas, comme son nom l'indique, et le symbole de Dassault, c'est un trèfle à quatre feuilles qui vient de sa période de déportation, puisque peu avant d'être déporté, il avait trouvé un trèfle à quatre feuilles qu'il avait mis dans son portefeuille. Et il a retrouvé ce même trèfle à quatre feuilles dans une poche de son portefeuille après la guerre. Et il a adopté ce trèfle à quatre feuilles comme étant l'emblème de son entreprise. Et donc Hergé, après, a fait un clin d'œil entre le trèfle à quatre feuilles et le carré d'as de son personnage.
On peut dire que Marcel Dassault a réussi à bâtir une des plus grandes réussites industrielles françaises et que sa vision du domaine de l'aviation a complètement bouleversé le monde de l'aéronautique, notamment militaire. Merci Sylvain.
Merci Mickaël.
On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode sur CDI Podcast. Vous n'hésitez pas à vous abonner partout pour nous écouter et on vous dit à très vite.
CDI Podcast, entrepreneur de légende.